Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Voilà, colonel, c'est fanfare. C'est fanfare en cette fin d'émission.
Les copains d'abord.
C'est les copains d'abord.
Les copains d'abord. C'est le bordel, mesdames et messieurs, vous êtes en direct hein, sur Dynamique Radio.
Ce
et c'est le fait,
un bon animateur.
Ouais. Ça fait de l'effet à Jane, visiblement.
Et Jane qui donne de la fessée.
Bah oui, mais il est très tard et Jane va nous lire quelque chose. Voilà, oui. La petite lecture de Jane pour s'endormir.
Voilà, je vais vous transporter sur un début de polar.
Transporte-nous.
De Michel Winthrop, La dernière enchère. Ce récit offre une plongée dans les coulisses des ventes aux enchères, ainsi que dans le monde très fermé et protégé de la lutherie. C'est la découverte d'un univers séduisant, mais aussi sordide, à travers les collectionneurs, ateliers, trafiquants et receleurs qui n'hésitent pas à commettre les pires forfaits pour protéger leur commerce. L'héroïne de ce roman est une femme de caractère, détective privée indépendante, raffinée et néanmoins pragmatique, à la sensualité troublante. Olga, femme dominante et passionnée, forme avec son ami le commissaire Croisic une équipe solide, drôle et efficace. Premier chapitre. Lot 236, très joli pastel 19e siècle. Nous commençons à 100 euros pour ce charmant pastel 100. Allez, 100, oui, bien sûr, madame. 110, suivons. 120, un monsieur dans la porte. 130, monsieur à l'écharpe rouge au fond. Suivant, nous sommes à 130, 130. Madame sur la gauche, 140. 140, suivons. Allez, ça vaut mieux que cela.
200.
Non, 140, oui, 150. Monsieur 200, un connaisseur. Nous sommes à 200. Madame sur la gauche. Non, monsieur, j'adjuge.
230,
je vais adjuger. Adjuger à 230. Bravo, monsieur, il est à vous. Bel achat. Le marteau en baleine et ivoire frappa si fort le bureau que l'on s'attendait à ce que la table s'effondre en miettes ou bien que le manche du marteau vol en éclats. Lot 237. L'inconstance et imprévisibilité caractérisent le comportement théâtral du commissaire priseur Maître Isor du Châtelard. Certaines personnes assistent partiellement à ses ventes, rien que pour la voir et l'entendre. Sa voix douce et chaude, un peu traînante comme sous l'effet d'un excès de bon vin, ce qui n'est évidemment pas le cas, peut instantanément devenir dure comme de l'airain et l'annonce des enchères presque voluptueuses claquées comme des coups. Il en est de même de son regard, auquel rien n'échappe dans la salle, tour à tour langoureux tel celui d'une chatte ou accusateur et froid à l'image d'un procureur. Pour qui la connaît, ce commissaire-priseur comédienne de circonstances par goût de la scène et du pouvoir, éphémère d'une vacation, adepte contrainte à la différence d'un monde hétéroclite, en majorité peu estimable, est une belle femme. Toujours élégante, drôle, spirituelle, chaleureuse et très compétente. La salle 12 des gens pleines continuait à attirer les chalands, collectionneurs et curieux. Chacun se pressait au fond de la salle, les reins collés à ce que l'on appelle la simèse, large et épaisse tablette rabattable qui court tout le long des cloisons. Il était presque 17h30, le rythme de la vente s'accélérait maintenant. Il fallait finir avant 18h, sinon chaque heure supplémentaire, la première minute entamée comptant pour les 60 suivantes, était facturé double selon les termes du contrat de location. Les frais afférents à une vente étant déjà très élevés, mieux valait ne pas alourdir la barque. Mesdames, messieurs, la vente est terminée, nous vous remercions. Un flot humain quittait maintenant la salle, lentement et en désordre, tandis que la queue grossissait devant la table du commissaire priseur et de ses adjoints, chaque client attendant son tour pour régler ses achats et obtenir le bordereau attestant du paiement, sésame indispensable pour récupérer ses achats. En cette fin d'après-midi, comme toutes les autres d'ailleurs, l'hôtel Drouot devenait une véritable ruche dont les mouvements de foule se coordonnaient tels un ballet bien rythmé. ne restait plus dans la salle 12 que maître du châtelard et deux collaboratrices qui clôturaient les comptes de la vente. Deux commissaires couraient encore dans tous les sens en levant les derniers objets pour les stocker dans l'arrière-salle en attendant de les descendre au magasinage, tandis que le crieur faisait le point de ses ordres d'achat personnels. C'est le moment que choisit Olga pour aller saluer son ami Isor. « Désolée de te déranger, Isor. Je t'ai aperçu tout à l'heure. Je voulais t'embrasser avant de partir. »«
C'est pas vrai, Olga, c'est incroyable. Je voulais justement t'appeler ce soir.
Écoute, je suis occupée maintenant, comme tu t'en doutes, mais j'ai besoin de te voir rapidement. Tu peux passer demain matin à l'étude. Nous irons prendre quelque chose, j'ai besoin de tes lumières. »
« Bien sûr, rue de la Grange-Batelière, c'est bien ça ?»«
Oui, c'est toujours là, premier étage à gauche, tu es déjà venu, tu chines un peu ?»«
Je ne te vois pas souvent ici. »«
Oui, je cherche des bouquins, et puis on ne sait jamais, un coup de cœur. »«
Tu me raconteras. »
Le commissaire priseur se leva de son bureau pour embrasser son ami avant de se remettre au travail.
« Olga, je suis contente de te voir, il faut que je te parle de quelque chose. »
« Voilà, tu sais que, plusieurs fois par an, ont lieu des ventes d'instruments de musique et notamment de violon. Notre étude en fait deux en général, une au printemps et une autre vers novembre, toujours à Drouot. D'autres études en font aussi, ainsi qu'en province. Ce type de vente s'est aussi développé à Biarritz et à Vichy, donc tu vois que ce n'est pas rien quand même. »
Tu travailles avec un expert pour ces ventes.
Oui, bien sûr, il y en a deux ou trois qui interviennent systématiquement. C'est un domaine très pointu, il est impensable de ne pas faire appel à un expert.
Ils sont bons ?
Comme la plupart des experts, ils semblent bien connaître certaines choses et moins bien d'autres. De toute façon, ils sont toujours contestés par quelques professionnels ou amateurs éclairés. Certains prétendent qu'ils forment un véritable gang. La jalousie, le fait de vouloir se mettre en avant, les messieurs, je sais tout, on a l'habitude.
Tu sais, je n'y connais rien en dehors du fait que j'adore la musique et le violon. Je ne crois pas pouvoir t'être d'un grand secours.
Attends, je t'explique. Depuis un an, je vois des choses bizarres qui m'inquiètent. Dans chaque vente, que ce soit à Paris ou en province, on retrouve ce que l'on appelle des arlequins. Tu sais ce que c'est ? Un arlequin, c'est un violon toujours ancien, en principe italien, car ce sont les plus recherchés, mais dont on ne connaît pas l'auteur. En revanche, chacun de ces instruments possède une partie formellement identifiable, fabriquée par un grand maître, la tête, la table ou le fond. Tu vois pourquoi on les appelle des arlequins ?
Ok, je comprends. J'ai vu aussi ça dans la peinture. Tel tableau est de l'atelier d'un tel ou d'un tel autre. Mais on dit qu'un des personnages est de la main de Trucmuche. Ce n'est pas nouveau, des magouilles entre collectionneurs, experts et même commissaires-priseurs. Bon, en effet, mais pour mon affaire, ce n'est pas tout à fait pareil. Que des experts affirment que telle partie soit de la main de Stradivarius, par exemple, c'est peut-être vrai, peut-être pas. En tout cas, les prix s'envolent. Même s'il n'y a rien, presque rien de Stradivarius, je continue, écoute bien, Olga. Ces arlequins valent cher, parce qu'il y a une pièce d'un mètre. Tu me suis ?
Oui, très bien. S'il n'y avait pas cette fameuse partie, il vaudrait beaucoup, beaucoup moins. Le problème, c'est de savoir d'où viennent ces instruments. Jusqu'à maintenant, les rares arlequins, parce qu'ils étaient rares, étaient anciens et provenaient d'obscurs luthiers, pas mauvais tout de même, qui, ayant récupéré après un accident les restes d'un beau violon, les utilisait pour valoriser un instrument anonyme, mais qui le méritait. Un peu comme la greffe d'organes, on pique ce qui est bon pour sauver une autre personne.
Quel est le problème, Isor ?
Le problème est que la multiplication des arlequins est liée à la disparition de beaux instruments, signalés ou non.
Tu vas comprendre. Un très beau violon volé par un Stradivarius, mais un violon de renom un peu moins connu du grand public est très difficilement vendable. C'est pratiquement impossible de le mettre sur le marché car tous les grands violons sont connus comme les tableaux, les pierres précieuses. Il semblerait donc que certains de ces instruments soient entièrement démontés, c'est-à-dire détruits puis reconstruits morceau par morceau sur d'autres carcasses de violons retaillées pour cela. Du coup, trois violons Harlequin à prix moyen haut, disons, n'ont pas toujours la même valeur du beau violon d'origine, mais tout de même. En tout cas, ça permet d'écouler sans état d'âme le beau violon volé. On voit la même chose avec les diamants. Une belle pierre volée est divisée en plusieurs pierres. Une fois retaillée, tu n'y vois rien. En quoi puis-je t'être utile? La plupart des beaux violons sont rarement déclarés, ni au fisc, ni aux assurances. D'abord parce qu'ils ont souvent été achetés en cash, et ensuite pour ne pas les inclure dans les successions afin d'éviter de payer des droits élevés. Beaucoup appartiennent à des gens âgés qui les ont acquis quand les prix n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. En plus, les ventes d'instruments donnent lieu à des révisions, des ventes aux enchères clandestines, tu connais? Évidemment. Tu vois que ce n'est pas possible de mettre la police sur des coups pareils, ça ne les intéresse pas. Ils ne peuvent de toute façon rien prouver. Ce domaine est spécial et toi tu connais. Je ne comprends toujours pas ce que tu peux faire là-dedans. Olga, des œuvres d'art sont détruites. Je suis sûre que pour voler certains de ces instruments, les voyous qui font ça ne reculent devant rien. Et puis merde, tu es détective alors. Ils tueraient? Rien est impossible dans ce domaine.
Et ben voilà. Et voilà. On vous souhaite une bonne nuit. Voilà sur Dynamique Radio. Ciao, bye bye.